perdu son un point.
Heures, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'actualité locale et citoyenne de Radio U sur le 101. On est le jeudi 23 mai, il est 18h et c'est l'anniversaire de Vincent, notre technicien et programmateur préféré. Alors joyeux anniversaire Vincent. Le week-end dernier, c'était le festival des carnets de voyage et reportages d'ici et d'ailleurs organisé au Capucin. J'y étais pour tendre mon micro à des artistes et voyageurs. Je vous propose d'écouter ce soir une interview réalisée avec Elisabeth Blanchet à propos du projet We Need to Talk About the Border. On y parle Brexit, frontières, Irlande. Puis Chloé nous proposera ensuite un billet d'humeur. On recevra Maël et Gwendal à l'occasion de la fête du vélo à l'auberge de jeunesse de Brest. Ils nous présenteront cet événement qui se déroule le dimanche 2 juin. En fin d'émission, c'est le rendez-vous quotidien de l'économie sociale et solidaire. On se retrouve ce soir avec le 4e épisode sur la Kermesse, un événement organisé par les services civiques bretons de l'économie sociale et solidaire. On écoute tout de suite un titre de Liv Monaghan, la chanteuse et songwriter de jazz. Elle se produit ce soir à 19h au comptoir irlandais au port de commerce. On écoute Slow Exhale, à tout de suite sur le 101.
It's been lovely knowing you. Sitting on a steam train, waiting on a slow exhale. Watching all the tracks as they roll by. Overhead, flamingos paint the sky. Heaven knowing you, breathing on this G train, waiting for a cloud to break. Dark roads at night in a world we don't know. Crickets shake a note to take us home. Watching all our landscape, willing it to melt away. Hotels and cars and salty seas. Shoes and boots and boats to make us go. Sunlight seeing you, gathering our notebooks, pages torn onto the wind. Colors of strings and golden leaves, moods and doubts and clouds like giddy thieves.
Vous écoutez C'est vous qui le dites sur le 101.1, c'était le titre Slow Exhale de Liv Monaghan. On démarre cette émission avec l'interview réalisée avec Elisabeth Blanchet que j'ai rencontrée ce week-end au festival des carnets de voyage au Capucin.
Elisabeth Blanchet et mon collègue s'appelle Laurent Gontier. Moi je suis plus photographe, et j'ai fait aussi un peu des films, j'écris. Et Laurent travaille beaucoup sur la cartographie, il a beaucoup fait de travail de recensement et puis de story mapping un peu. Donc voilà, on est parti sur la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande l'année dernière, au mois de juillet, parce qu'on voulait savoir un peu ce que les frontaliers pensaient en fait des possibles conséquences du Brexit sur leur vie de tous les jours. Parce que en fait, au niveau... on a l'impression que tout se décide un peu au niveau européen ou au niveau de Westminster. Mais par contre, on n'a pas, on n'a rien demandé aux gens qui habitent sur la frontière, quoi. Et je pense que même quand le Brexit a été voté, je me demande s'ils avaient même pensé au problème de la frontière.
Qu'est-ce qu'il est ressorti de vos entretiens, de vos rencontres avec les Irlandais ?
Alors que ce soit des gens de l'Irlande du Nord ou de la République d'Irlande, en fait, il y a quelque chose qui est ressorti qui est énorme, c'est qu'ils n'en veulent pas de cette frontière. Ça fait 20 ans qu'ils essayent de l'effacer après les Troubles, qui ont duré jusqu'à 1998, les accords du Vendredi Saint. Et toutes les grosses infrastructures que l'armée britannique avait installées le long de cette frontière, les miradors, les espèces de grosses... certains trucs ressemblent à des blocos, s'il y en a encore un là... qui est encore là, celui-là n'a pas disparu. Donc ils se sont vraiment décarcassés pour effacer toute trace de cette frontière, qui est presque invisible maintenant. Et ça marche très bien. Les gens, ils la passent tous les jours. Parfois, les gens la passent 8 fois par jour, quoi, parce que ils travaillent juste de l'autre côté. Donc la voir revenir d'une manière physique, ce serait très très compliqué.
Est-ce que c'est un des risques là à l'heure actuelle, parce qu'on ne sait pas trop hard Brexit, soft Brexit, est-ce que c'est vraiment un risque qui est présent, la frontière palpable physique?
Absolument, parce que c'est, non seulement c'est la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, mais c'est aussi la frontière du Royaume-Uni avec l'Union européenne. Et quand on est dans un pays hors de l'Union européenne, et il y a des infrastructures de frontières classiques. Si vous passez, par exemple, de la Roumanie à la République de Moldavie, ou tournant encore dans l'Union européenne jusqu'au bout de la Roumanie, et ben voilà, après, c'est des trucs de frontières physiques, comme on avait dans le temps entre l'Allemagne et la France. Donc il faudra qu'il y ait quelque chose de physique qui revienne. Enfin, je pense. Et à moins qu'ils trouvent des systèmes de caméras ou qu'ils trouvent quelque chose, une espèce de une législation à part, mais bon, il sera obligé qu'il y ait quelque chose de physique, je pense.
Est-ce que dans les têtes des Irlandais, que ce soit de la République d'Irlande ou d'Irlande du Nord, est-ce que l'idée d'une réunification est présente ?
Alors, justement, un des aspects qui semble assez positif pour beaucoup d'Irlandais, c'est de dire que cette histoire de Brexit, ça va peut-être accélérer un processus de réunification d'une grande Irlande, quoi. Donc... il y a aussi l'histoire de la démographie, c'est-à-dire que dans l'Irlande du Nord, il y a de moins en moins d'unionistes, de protestants. Les catholiques, les républicains ont tendance à avoir plus d'enfants que les autres. Donc en fait, ça inverse les démographiques. Donc Oui, il y a cette idée que la réunification pourrait arriver plus vite que si ça doit arriver, quoi. Voilà. Et il y a un problème aussi sur le... Je pense aussi que c'est important de parler du commerce aussi. Là, pour les, ça va être très très dur pour les gens qui vivent de l'agriculture, qui ont par exemple du bétail d'un côté, de l'autre la frontière. Et puis les législations aussi pour les Irlandais du Sud qui vendent leurs produits en Grande-Bretagne. Il n'y aura plus les mêmes législations. C'est-à-dire que les Anglais, les Britanniques peuvent tout à coup dire « Nous, on va prendre notre viande aux États-Unis ou au Brésil, c'est deux fois moins cher. » Et la ménagère britannique, elle va prendre ça parce que c'est moins cher. Et du coup, il y en a qui vont vraiment perdre du business, quoi.
Là, votre travail, c'est un work in progress.
Yes.
Pourquoi ?
Parce que déjà on est un peu frustré d'avoir fait qu'un seul voyage. On a eu la chance d'avoir une petite bourse de la SCAM, c'est la Société Civile des Auteurs Multimédia. Et pour pouvoir faire ce premier voyage, on travaille tous les deux sur d'autres projets à côté. Donc on veut nous-mêmes continuer à documenter cette frontière. Et donc avoir notre site qui évolue déjà. En fait, c'est un site qui est interactif et qui démarre avec la carte, évidemment, de la frontière. Et en se rapprochant de certains points sur la carte, on voit apparaître dans un menu qui déroule des vidéos, des photos, des histoires de gens de la frontière. Mais on aimerait aussi susciter une espèce de participation des gens qui vivent, qui sont concernés ou qui sont concernés par cette frontière et qui alimentent aussi ce site qu'on appelle dont le titre du projet est We Need to Talk About the Border. Et là, que ces gens-là aussi alimentent en disant bah voilà, il y a un an je pensais ça, maintenant finalement le Brexit c'est peut-être vachement bien, enfin ça, n'importe quoi.
On ne
sait jamais. Exactement. Parce qu'il y a aussi quand même, il faut dire qu'un truc aussi qui est intéressant, je pense, c'est qu'on s'est baladé aussi pas mal à Belfast, parce qu'il y a toujours cette espèce de mur quand même à Belfast qui s'appelle maintenant le Peace Wall, mais qui sépare toujours les quartiers du Shankly Road et de Falls Road. Alors Falls Road, c'est le côté des républicains et l'autre, c'est les unionistes. Mais c'est là qu'il reste encore vraiment de fortes dissensions. Alors qu'on est loin de la frontière. Enfin, on est à une centaine de kilomètres, mais ils ne sont pas impactés par cette frontière-là, à Belfast. Mais pourtant, c'est là qu'on entend les choses, des gens dire « Oui, moi, je suis pour cette frontière. » Mais à cause d'un autre problème du côté unioniste, c'est plutôt la peur des migrations venant de l'Union européenne. Ça, c'est plutôt la peur. Et là, on vient dans des discours un peu nationalistes, voilà, un peu à la Nigel Farage ou à la... Comment il s'appelle Boris Johnson ou ces gens-là qui, voilà, ont peur de la migration, des migrants. Je pense que ça, c'est vraiment un truc intéressant, cette histoire de plus on s'éloigne de la frontière, finalement, plus on a peur, plus on veut qu'il y ait cette frontière. Parce que, alors quoi, si on est dessus et qu'on la vit au jour le jour, eh ben, elle n'est plus là. C'est comme si elle n'était plus là. On se rappelle, les gens se rappellent des moments difficiles avec les attentats, etc. Mais ils se rappellent aussi des histoires complètement abracadabrantes de contrebande.
C'est ce qui ressort, ah ouais, ce qui ressort dans les petits témoignages.
Ouais, ouais. Les trucs de contrebande, il y a des histoires pas possibles. Là, c'est très drôle, quoi.
Est-ce que vous voulez nous présenter le petit fascicule ?
Alors voilà, ça, c'est un petit livre qu'on vient d'éditer, là, un petit peu, comme une première, un peu. Parce qu'on veut aussi laisser des productions qui ne soient pas que en ligne, mais des objets. C'est important de garder aussi des objets. Et donc là, c'est un petit recueil où on a plusieurs personnes qu'on a interviewées le long de la frontière qui donnent un peu leur avis sur le Brexit et ce que c'est de vivre sur la frontière, tout simplement. Donc avec des portraits et puis les références, les coordonnées polaires.
Coordonnées géographiques.
Oui, oui. Voilà.
Ce petit recueil, on peut l'acheter, on peut le trouver quelque
oui,
part.
Oui, alors il est à 10 euros. On n'en a que 25. Donc c'est des éditions limitées qui sont signées par nous, qui sommes quand même des stars, disons-le. Donc, Donc 10 euros, c'est vraiment... c'est presque donné. Mais donc on les vend ici, là, au festival. Mais sinon, vous pouvez nous contacter, on vous en envoie un avec plaisir.
Récemment, l'actualité à Derry, il y a eu des émeutes ou des révoltes, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Je ne sais pas, c'est quoi votre ressenti, enfin,
Alors nous, on est arrivés à Derry, ou Londonderry, ça dépend d'où on vient, juste le lendemain des émeutes, là, les fameuses émeutes, il y a toujours des émeutes pendant le mois de juillet, quand il y a les parades, etc., les parades orangistes. Et donc, ça avait chauffé pendant 2 ou 3 nuits, oui, sérieusement. Et là, il y a eu... Mais ça, c'est tous les ans, hein. Brexit ou pas Brexit, il y a toujours ces histoires d'émeutes pendant qu'il y a les parades orangistes, à Belfast ou à Derry. Mais là, il y a eu, il y a un mois ou deux, une journaliste qui a été tuée par des mouvements de ce qu'on appelle le New IRA, la Nouvelle IRA. Donc, ce genre d'extrémisme peut effectivement être un peu exacerbé par tout ce qui se passe, parce qu'il y a toute une jeunesse aussi. Parce que, aussi, il y a eu toutes ces traces de combat qui reste quelque part un peu dans les ADN un peu des gens quand même, hein. Ça, c'est toujours, on est face à une frontière, mais on n'efface pas des tragédies,
puis des murs criblés de balles, oui, dans les villes.
Il y a encore là, tu vois, il y a toujours des impacts de balles dans le
voilà, ils ont dans pas le panneau de la frontière,
le panneau qui indique qu'on arrive en Nouvelle-Irlande, en Irlande du Nord.
Vous écoutez C'est vous qui le dites sur Radio U, et c'est l'heure du billet d'humeur de Chloé, stagiaire à Radio U.
Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Ah là là, cette frontière dont nous parlait cette charmante dame dans le reportage que l'on vient d'écouter nous en fait voir décidément de toutes les couleurs, et d'autant plus dans ce contexte des élections européennes, une potentielle frontière donc entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Eh ben oui, ça fâche. C'est en effet la pierre d'achoppement des négociations pour le Brexit, une frontière qui fait trembler Theresa May. Madame May, hein, ne doit pas passer des nuits exceptionnelles, ou alors si elle réussit à plonger dans un sommeil profond, elle doit sûrement cauchemarder. C'est obligé qu'elle a dû au moins une fois se réveiller en sursaut à cause d'un cauchemar dans lequel une frontière l'empêchait de rejoindre sa famille. Hein, j'imagine très très bien la scène. Bloquée dans son salon, une frontière empêche la première ministre du Royaume-Uni d'accéder à sa cuisine dans laquelle sa famille est en train de dévorer un brunch. Quelle horreur, la pauvre. Mais pourquoi vouloir toujours construire des frontières, des murs, des murailles? Stop. Alors déjà, esthétiquement parlant, c'est pas incroyable dans un paysage. Hein, c'est terne, c'est gris, c'est moche. Alors vous allez me dire, même si c'est pas dans une frontière à proprement parler... Oui, mais la muraille de Chine, c'est magnifique, ça nous en met plein les yeux, plein la vue. Oui, cette muraille est magnifique dans l'esprit des gens parce que ça fait partie des 7 merveilles du monde, mais ça reste une muraille grise qui s'étend à perte de vue. Hein, rien de fou au final, enfin je veux dire, il n'y a pas de quoi s'emballer. Et puis cette idée de frontière, je trouve ça assez angoissant finalement. Moi, ça m'évoque le cahier que le petit Charles-Henri plaçait sur sa table pour éviter que l'on triche sur lui. Je crois qu'on a tous vécu ça. Bah oui, parce que Charles-Henri, binoclard talentueux à l'école, voulait être le premier de la classe, hein, donc il ne fallait pas que ses méchants camarades copient sur lui. Oulala, malheur. Et puis ça marchait, parce qu'évidemment, il avait des meilleures notes. Et bah oui, il avait des meilleures notes, le petit Charles-Henri. Mais à cause de ses cahiers anti-triche, qu'on peut considérer comme des frontières, il se retrouvait isolé, voilà. Alors fallait pas s'étonner si on lui piquait son goûter à la récréation. Alors, trouvez-moi une qualité à une frontière, mesdames et messieurs. Elle peut être physique, cette frontière, bien sûr. Mais elle peut aussi être imaginaire. Et même les frontières imaginaires, eh bien, elles font très mal. Par exemple, cette frontière entre l'amour et l'amitié, alors je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je crois que c'est la pire. Hein. Combien de cœurs a-t-elle brisé? Je vous le demande, et je préfère même pas compter, parce qu'en fait, ça serait statistiquement catastrophique et bien triste. Et pour en revenir à cette frontière entre les deux Irlandes, je fais un appel aux Irlandais, hein, pour ceux qui ont besoin d'arguments en plus, pour que cette frontière ne naisse jamais, je serai là sans problème. On se boit un petit thé, on s'organise une petite réunion, et puis c'est parti. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur Radio U.
Merci Chloé, merci pour ce billet d'humeur. Et pour le bonheur des oreilles, on écoute un autre morceau de Liv Monaghan, Erin Jumper. On reste dans le thème de l'Irlande. A tout de suite sur le 101.
Together as we sit, looking out at the sea, with our cups and our hands full of hot tea. And the sea is a great
photograph, full of hopes, full of dreams, full of night. Your books have lined your walls, flowers of red, yellow, gold, rug on wood, wood on fire, twinkling nightlights. Croissant tubs, bobbing boats, crimson toes. Grey on green, firewood stove, treasure trove. Alone we sail through nighttime rain, bathtubs of milk, drying cloths of silk across the bay. Night lights have their say, and though this time is brief, I will keep it with me, sun to warm what I feel in the winter. Cable knit steals my wit as we slide, diving birds sending signs to my mind. The books are stacked up tall, they are towers about to fall, they are proud, we are tender. You're the king on his couch looking out, while the queen has her heart in her mouth. Alone we sail through nighttime rain, bathtubs of milk, drying cloths of silk across the night lights have their say. Just fill the bath, ink and soap, broken hearts, butter churns, slanting chairs, creature comforts. Lonely souls setting off on their roads. Take a book and good care as you go. Together as we sit, looking out at the sea with our cups and our hands full of hot tea. And the sea is a grey photograph, full of hopes, full of dreams, full of night. Alone we sail through nighttime rain, across the bay. Night lights have their say. Mm-hmm.
Vous écoutez C'est vous qui le dites sur Radio U, il est 18h25, on vient d'entendre Erin Jumper de Liv Monaghan. Maëlle et Gwendal viennent d'arriver en studio, bonsoir.
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 Alors vous êtes là en tant que BAPAV, Brest à pied et à vélo. Gwendal, tu es salarié et Maëlle, tu es bénévole, mais tu travailles également à l'auberge de jeunesse de Brest.
Oui.
Le dimanche 2 juin, BAPAV organise la fête du vélo, qui se déroulera à l'auberge de jeunesse, mais aussi au parc à chaînes et un certain pont. Bon, je ne vais pas tout dévoiler, on parlera de la programmation de cette journée un petit peu plus tard. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est la fête du vélo? C'est quoi l'objectif de cette journée?
La fête du vélo, en fait, ça existe, je ne sais pas depuis combien de temps, mais depuis un certain nombre d'années avec BAPAV, en tout cas on l'a toujours fait, ça se déroule début juin. Au moment où il commence à faire beau, le moment le plus propice pour convaincre les gens de s'y mettre, d'essayer. Donc chaque année, on essaye de proposer des animations un peu différentes, à chaque fois dans l'idée de faire découvrir à tous, aux salariés, aux familles, à tout le monde, de faire essayer sur une journée, au fait, par différentes actions, de montrer que le vélo est un excellent moyen de déplacement.
Oui, le vélo, c'est pas juste le Tour de France.
Exactement, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire aux gens. C'est vrai que les gens sont là, le vélo c'est un sport, en fait, pour nous pas du tout, en fait, dans le sens où c'est vrai qu'on a, on a des cyclos sportifs hein, qui sont aussi adhérents à la BAPAV, on a des gens qui font du BMX, on a plein de gens qui font du vélo de différentes manières, mais vraiment nous la philosophie qu'il y a derrière c'est le vélo mode de déplacement.
Donc c'est une journée qui s'adresse à tout le monde, on peut venir en famille, on peut venir si on est novice, si on n'a jamais fait de vélo auparavant.
Ah totalement, c'est vraiment de la découverte, venir voir ce qui se passe.
Est-ce qu'on peut y trouver aussi un intérêt si on est expert en vélo et que...
Bah, faire partager tout. Déjà.
Carrément, c'est l'idée de la BAPAV aussi hein, de manière générale, c'est-à-dire que nous on a parmi les différentes activités, il y a un atelier de réparation et dedans l'idée c'est que des gens qui savent pas du tout réparer puissent venir pour apprendre des choses, et on a aussi besoin du coup de gens qui s'y connaissent bien, qui sont nos anciens réparateurs, des passionnés et compagnie.
Pour transmettre leur savoir.
Pour transmettre, voilà, exactement. Donc tout le monde y trouve son compte et on verra quand on parlera du déroulé de la journée qu'il y en a pour tout le monde.
Il y en a pour tout le monde. La fête du vélo et puis plus globalement des événements liés au vélo, est-ce que ça a un impact sur l'usage du vélo dans la ville? Est-ce que vous en constatez un?
C'est pas évident, on fait pas des retours d'expérience à chaque fois systématiquement avec des petits questionnaires pour savoir si les gens ont changé leur comportement derrière. Globalement, on espère que oui, sinon on le ferait pas. On pense qu'à chaque fois qu'on essaye de... Déjà au niveau de l'image, au fait de donner une image positive du vélo, sympa, dynamique au fait, et rien que ça, c'est assez important. Et ensuite, dans les événements, le fait de pouvoir essayer différents types de vélos également, on pense que ça joue énormément sur la pratique. C'est l'objectif du challenge à vélo au boulot aussi, dont je suis venu parler il y a 2 semaines déjà ici, où le but, c'est vraiment de faire essayer aussi... aux gens qui pratiquent pas d'habitude autour d'une animation en fait, et ça on constate très clairement que ça marche. Moi je le vois, je gère l'arrière du site et on voit que cette année ça marche énormément. Il y a plein de gens qui se prêtent au jeu et qui s'y mettent et ça joue même au sein des entreprises. Elles voient qu'il y a beaucoup de cyclistes et du coup elles mettent en place plus de stationnement vélo, elles mettent en place des douches au sein de l'entreprise. Donc je pense que ça joue.
Et au niveau de la ville de Brest, vous avez des retours d'usagers et d'usagères de vélos, de cyclistes? Comment est-ce que Brest est aménagé pour les cyclistes?
Comment Brest est aménagé pour les cyclistes? Pas assez bien. Nous, de toute manière, on est une association, donc ça sera jamais assez bien pour nous, ça c'est clair et net. Après, si on regarde de manière objective, Brest reste quand même une ville pas très bien aménagée pour sa taille. C'est-à-dire que un des défauts principaux au fait de Brest, c'est le manque de continuité dans les aménagements cyclables. C'est-à-dire qu'on va avoir des bandes ou des pistes cyclables et qui d'un coup s'arrêtent et après on sait pas où aller en tant que cycliste, c'est même dangereux au fait parce qu'on se retrouve directement dans la circulation. Donc ça c'est un des gros reproches qu'on peut faire aux aménagements à Brest, et le nombre de kilomètres d'aménagement réalisés chaque année est très largement insuffisant. Donc nous on se bat vraiment pour ça et à chaque fois c'est ça que je répète, on se bat même pas pour nous parce qu'au sein de la BAPAV au fait c'est des gens qui font déjà du vélo, nous on se bat pour les gens qui en font pas encore et eux ce qu'ils reprochent c'est que c'est trop dangereux de faire du vélo parce qu'il y a pas d'aménagement sécurisé. Donc de ce point de vue là il y a y a un gros travail à faire. Il y avait une enquête aussi qu'on avait menée il y a deux ans, qui avait été le baromètre Cyclable, qui a été fait au niveau national. Et c'est vrai que Brest n'avait pas eu une très bonne note. Pas la pire non plus, mais pas une très bonne note. Donc, beaucoup de progrès à faire. Alors là, on attend... Il y a au niveau des services aussi, il y a des choses à faire. Et là, avec le nouveau contrat de la délégation de services publics des transports en commun, là, qui est tombé il y a pas si longtemps, on voit qu'il y a quand même une ambition, notamment en termes de prêts de vélos et de vélos à assistance électrique, avec l'ambition d'arriver d'ici 2-3 ans à 1200 vélos à assistance électrique en prêt, dont 30 vélos cargo et 100 vélos pliables. Donc ça, on peut saluer quand même cette initiative-là.
En parlant d'initiative, je ne sais pas si c'est trop lié, sur l'affiche de la fête du vélo du 2 juin, il y a un mot qui ressort en grand, c'est plan vélo national. Alors sans spoiler la conférence dont on présentera vite fait tout à l'heure, c'est quoi le plan vélo national ?
Alors c'est une politique qui a été mise en place en septembre dernier, il me semble que c'est tombé. Et ça a été approuvé par les institutions, en fait, pour faire un schéma national et encourager justement la mise en place d'itinéraires cyclables, de voies, de pistes, etc., notamment en débloquant des fonds. Donc ça, c'est une partie. Après, il me semble qu'il y a aussi encourager à l'apprentissage du vélo, notamment au sein des écoles. Donc le but, c'est que tout le monde sache faire du vélo, enfin tous les élèves apprennent à faire du vélo à l'école. Et il me semble qu'il y avait aussi quelque chose sur le forfait mobilité, maintenant ça s'appelle, et c'est encourager les entreprises à valoriser le fait de venir en vélo en donnant une indemnité sur le nombre de kilomètres qu'on fait pour venir en vélo.
D'accord. Si on veut en savoir plus, on pourra aller à la conférence débat le dimanche 2 juin. Alors je propose qu'on se penche un petit peu plus sur la programmation. La journée, elle se divise en plusieurs temps. On pourrait dire qu'il y a le matin, bon, on compte pas le midi parce que c'est le repas, mais le matin, il y a un peu de temps l'après-midi et puis le soir. Est-ce qu'on commence par le matin au Parc à Chêne ?
Ouais, le matin au Parc à Chêne, alors c'est organisé par la FSGT. C'est la TISEF, donc c'est la deuxième édition. C'est un événement qui se veut familial autour du vélo. Là, pour le coup, on est sur le vélo sportif plus, donc cyclo-sportif. Alors sportif dans le sens où ça reste quand même un événement familial où tout le monde est bienvenu. Il y aura des animations pour les petits aussi, plusieurs stands d'animation. Donc ça se passe au Parc à Chêne à partir de 9h du matin, si je ne dis pas de bêtises, avec une petite balade à pied aussi, trois courses cyclo, 70, 90 et 110 km, possible de s'inscrire sur place, c'est gratuit. Ils offrent un sandwich à ceux qui participent aussi. Donc eux, leur idée, c'est de créer un événement familial. Ils profitent de la fête du vélo pour faire la promotion aussi du vélo en tant que sport, ou même au-delà, parce que je dis sport, mais finalement les cyclos qui vont faire le vélo le dimanche, c'est en effet pour le sport, mais c'est aussi pour les paysages, pour bien connaître la région. C'est vrai qu'on va faire pas mal de bornes, surtout dans le coin, on a de la chance d'avoir des super paysage, c'est l'occasion de voir un petit peu du pays. Donc voilà, ça c'est le temps du matin qui se passera au Parc à Chêne avec pas mal de petits stands. Ouais.
Tu parlais des trois courses, ce sera pas des tours du Parc à Chêne ?
Non, c'est départ au Parc à Chêne et arrivée au Parc à Chêne, mais après voilà, 70 km à Brest, bon, on a vite fait le tour.
Ensuite, le midi, on se donne rendez-vous à l'Auberge de Jeunesse pour un repas partagé. L'Auberge de Jeunesse, tu veux venir le présenter rapidement, Maëlle ?
Alors, oui,
où est-ce qu'elle se situe ?
Du coup, l'Auberge de Jeunesse, elle est à côté du Moulin Blanc, de la plage du Moulin Blanc. Elle est ouverte depuis un certain nombre d'années. Donc, j'étais déjà venu pour en parler parce qu'elle a été classée au titre des monuments historiques. Et en fait,
habitué de Radio U ce soir.
Exactement. On se sent comme à la maison.
Et du coup, pourquoi nous on s'associe avec BAPAF pour faire la fête du vélo ? C'est parce que on a envie qu'il y ait des cyclistes qui viennent à l'auberge, et il y en a, et on a envie de mieux les accueillir. Et c'est un peu une piste de développement de l'auberge. Donc moi, je bosse là-dessus. Donc de mettre en place, il y a une marque en fait qui a été créée, qui s'appelle Accueil Vélo, et on aimerait bien la voir.
Okay.
Et donc ça, c'est dans le but d'accueillir les cyclotouristes. Donc ça se fait de plus en plus, il y a de plus en plus de véloroutes, donc de plus en plus de départs en vélo. Donc le vélo, ça devient le moyen de transport, donc c'est du grand voyage à vélo. Et donc nous, le but, c'est vraiment de répondre aussi à ça. Et donc voilà, donc pour marquer justement cet esprit, on fait la fête du vélo avec BAPAV.
C'est le premier partenariat avec BAPAV.
Oui et non. En fait, il y a quelques années, l'Auberge Jeunesse nous avait gracieusement donné des vélos qui traînaient chez eux depuis un petit moment, puisqu'on récupère aussi des vélos. Donc, on avait déjà bossé avec eux et depuis un an, depuis qu'ils font ce travail justement sur cette marque, donc Accueil Vélo, on a déjà eu l'occasion de travailler avec eux sur deux trois actions.
Alors, on va passer à la programmation de l'après-midi, mais avant, je propose qu'on écoute un petit peu de musique. On écoute
D'accord.
Three Songs de About Look. À tout de suite. Écoutez, c'est vous qui le dites sur Radio U. Je suis toujours avec Maëlle et Gwendal pour parler de la fête du vélo. On parlait de la programmation de cette journée qui se déroule le dimanche 2 juin. On a parlé de la matinée qui se déroule au parc à Chênes. Et là, on va passer à l'après-midi. Alors, l'après-midi, c'est à l'Auberge de Jeunesse. Il se passe plein de choses. Tout au long de la journée, on peut essayer des vélos. Alors, quel vélo on peut essayer ?
Eh ben on verra bien en fonction des vélos qu'emmènent aussi les participants. Nous, notre côté, du côté de BAPAV, on va amener un vélo cargo, donc d'un modèle à nous. On espère qu'il y aura d'autres adhérents qui vont amener d'autres modèles différents pour que les gens puissent tester. Il y a déjà une famille qui m'a appelé qui veut tester justement avant d'acheter. Des vélos cargo, il y en a de plus en plus au fait. C'est des vélos qui permettent de transporter des enfants ou des choses lourdes. Il y a de plus en plus de gens aussi qui l'utilisent comme véhicule utilitaire pour leur activité professionnelle. Donc il y aura un vélo cargo à essayer. On va amener aussi une carriole enfant. On va amener notre super grande remorque aussi, là, qu'on a utilisée ce matin d'ailleurs pour aller. Sur laquelle on peut mettre. Bah, on a mis 8 vélos dessus ce matin, donc tracté par un vélo.
On peut même déplacer des canapés. Hein.
Oui, c'est
l'expérience de déménagement. C'était.
Bah, elle a déménagé en vélo, ça c'est la classe quand même.
C'est un déménagement écolo. Mm-hmm.
Donc, ouais, l'idée c'est de montrer qu'on peut tout faire justement en vélo, hein, même déménager. Il y a une boîte à Rennes qui s'appelle Tout en vélo qui fait des déménagements en vélo.
Et... On peut même livrer des plats.
Ouais.
Ça, c'est un autre débat.
Il y aura peut-être ton vélo, celui de Leslie.
Oui, peut-être.
Qu'est-ce qu'il a de particulier ton vélo, Maëlle ?
C'est la Rolls-Royce du vélo client. Non, c'est un Brompton et c'est un vélo pliant qui est très très efficace et très agréable à rouler avec. Moi, je lui pique souvent, donc voilà.
On aura des vélos assistance électrique aussi.
Y aura des vélos couchés.
Il y aura pas de... Nous, on n'en a pas, en tout cas. Bah, pas. On va peut-être ramener, on a un monocycle, peut-être qu'on va le ramener. Mmh. Je ne sais pas si on l'a toujours.
Ouais. Frédéric Huto, il n'a pas un vélo couché, lui ?
Peut-être. Si, là, c'est lui qui vient le soir ?
Je ne sais pas.
Peut-être qu'il y en aura un. On verra bien. Si vous avez des vélos couchés, appel aux auditeurs, aux auditrices. N'hésitez pas à le ramener. Voilà.
Et même tout type de vélo. Tout au long de la journée, de l'après-midi, on peut aussi faire diagnostiquer son vélo par les bénévoles de l'atelier. Alors, est-ce que c'est comme une visite médicale ?
C'est comme un contrôle technique.
technique, oui.
C'est ça, c'est pareil, un check-up. Ouais, l'idée, c'est de ne pas ramener tout le matos qu'on a à l'atelier pour faire les grosses répas, mais c'est vraiment qu'on regarde le vélo ensemble et qu'on explique aux gens les points sur lesquels il faut bosser. Donc, soit après, les gens ont le matos pour faire ça chez eux, soit... ils veulent passer le fer à l'atelier pour apprendre, soit ils n'ont pas le temps, ils ont des sous et ils vont faire ça chez un vélociste.
Dans les rendez-vous un peu fixes, il y a une conférence débat, on en parlait tout à l'heure, autour du plan vélo national. Tu nous expliquais ce que c'était, Maëlle. C'est à 14h, c'est jusqu'à 15h30. Mmh. Voilà, on ne va peut-être pas s'étendre un petit peu plus. Peut-être qui intervient lors de cette conférence ?
Alors, du coup, il y aura des entreprises. Mmh. Alors, je n'ai pas les noms en tête, mais...
Il y aura peut-être Naval Group qui va passer, c'est pas sûr, et du côté d'Arkea aussi, on va essayer de voir.
Voilà, et sinon du coup il y aura Olivier Schneider, donc, qui est le président de la FUB et qui a été coprésident de BAPAV, il fut un temps. Donc un Brestois qui est monté au niveau national et qui revient par ici.
Donc la FUB, c'est la Fédération des usagers de la bicyclette, oui, pour ceux qui ne connaissent pas.
Merci de préciser.
Et donc, il fait du lobbying au niveau national et qui a pas mal poussé pour ce plan vélo. Mm-hmm.
Ensuite, après cette conférence, c'est l'heure de la balade. Alors, cette balade, c'est celle qu'il y aura sur le pont de Plougastel ?
Tout à fait.
L'objectif, c'est de blinder le pont.
Exactement. En fait, il y aura un photographe sur un des rochers et le but, c'est de faire... une giga photo en disant nous on est là, il y a des cyclistes.
C'est adapté à tout le monde cette promenade?
Oui, c'est une balade assez assez tranquille mais qui fait passer par des coins assez jolis et ça dure il me semble une heure et demie, quelque chose comme ça.
Ouais, je pense une heure et demie après, parce que l'idée c'est de c'est justement que ça soit rythme famille, qu'on puisse y aller aussi avec les enfants, donc tranquillou.
Et on clôture la journée avec une petite ciné-rencontre autour d'une projection débat. C'est à 18h, c'est toujours à l'auberge de jeunesse. Qu'est-ce que c'est cette projection ?
Alors en fait, c'est une famille qui est partie faire le tour du monde à vélo. Alors pendant 6 ans, il me semble. Et donc ils ont fait un film et ils vont venir le présenter et en discuter un peu avec tout le monde pour montrer un peu que on peut faire des sacrés voyages à vélo aussi et en famille en plus. Donc,
avec des enfants.
Ouais.
6 vélos et 13 000 km, je vois sur mes feuilles.
Ça fait pas mal.
C'est pas combien mal. De tours de Brest, 13 000 km?
C'est beaucoup de.
Beaucoup de
tours de Brest. Le tour du monde, c'est 40 000 km. Ouais, on est pas mal quand même. On est pas mal. Mais voilà, l'idée, c'est de montrer. Ouais, sur cette journée, au fait, ce qui est assez pas mal, c'est qu'on a toutes les pratiques du vélo finalement. C'est-à-dire qu'on va avoir le vélo sportif, le vélo du dimanche, au fait, le matin. Nous l'après-midi, on va parler notamment avec la conférence d'Olivier Schneider du vélo domicile-travail, au fait, sur lequel nous on travaille pas mal. Et après on termine le lien avec de l'auberge de jeunesse sur le vélo voyage qui est de plus en plus plébiscité par un maximum de personnes, alors par les Allemands et les Hollandais depuis déjà un moment dans le coin. Si vous vous baladez l'été, vous en verrez énormément qui sont en vélo, et les Français de plus en plus.
Ouais, ils s'y mettent aussi.
Donc même si ça vous a toujours titillé, si ça vous a branché un petit peu et que vous savez pas trop comment, ça sera le moment de venir discuter avec des baroudeurs justement qui auront les bons conseils de voyage, même si c'est juste pour faire le canal de Nantes à Brest.
Ce qui est déjà pas mal.
Ce qui est déjà pas mal.
C'est plusieurs centaines de kilomètres. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette fête du vélo qui a lieu le dimanche 2 juin ?
Puis il y aura buvette à prix libre aussi quand même.
Ah oui,
parce que bon.
Sachons-le.
Ça c'est important à rajouter, voilà, avec de la bière locale, très locale, ultra locale.
Donc avec c'est
de la brasserie Poème,
ouais, qui est juste vraiment juste à côté de l'auberge pour le coup. Donc voilà, vous pourrez venir goûter.
Sur le site internet bapav.org, on peut retrouver le programme complet de la fête du vélo, sur Facebook aussi, parce que Bapav est sur Facebook. Si on ne peut pas attendre le 2 juin pour enfourcher son vélo, on peut toujours rejoindre la Vélorussion demain à 19h au cours d'Ajo. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose, Gwendal, ou Mel aussi
Rapidement, pour rappeler que demain, du coup, c'est Grève pour le climat qui est organisée par Youth for Climate à Brest, et donc qui invite tous les jeunes, mais les moins jeunes aussi, à venir manifester, voilà, quand nous on est engagés dans BAPA, c'est clairement une des raisons pour lesquelles aussi pour lutter contre le dérèglement climatique. Et donc il y a un appel à rassemblement à la place de Liberté à 13h30. Et ensuite il y aura des petits stands assez concrets au fait pour savoir ce qu'on peut faire concrètement. Et moi je proposerai un petit atelier réparation à partir de 15h30 au cours d'Ajo. Et Vélorussion à partir de 19h, on vous attend nombreux.
Au cours d'Ajo.
Et nombreuses.
On peut aussi s'inscrire, tu nous en parlais tout à l'heure, au challenge à vélo au boulot. De toute façon, toutes ces informations, on peut les retrouver sur Internet. Maëlle, Gwendal, merci d'être venu.
Merci à toi.
De nous avoir invités.
On écoute tout de suite le titre Something Good de Alt-J et on se retrouve juste après sur Radio U.
Something good tonight made me forget about you for now.
Vous écoutez C'est vous qui dites sur Radio U, c'était Something Good de Alt J. Il est 18h49, c'est l'heure de l'économie autrement réalisée par la Corlab. Pendant la kermesse à Brest, Mélanie nous raconte son service civique, ses missions et comment elle a découvert l'économie sociale et solidaire.
L'économie autrement, le rendez-vous quotidien de l'économie sociale et solidaire en Bretagne.
Alors aujourd'hui, on est dans un établissement scolaire sur Brest. Le but, c'est de sensibiliser les jeunes à découvrir qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire au travers des ateliers.
Vous connaissez les AMAP ? Ça vous dit quelque chose ce mot-là ? Non ? C'est les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et en gros, c'est ce que vient expliquer Raphaël. C'est un acheteur commande un panier à un producteur et au lieu que ça aille dans la grande distribution, donc dans les Super U, les Carrefour, etc., on va directement le chercher sur un lieu, tous au même lieu. Et comme ça, on achète directement au producteur et il n'y a pas d'intermédiaire. Comme ça, le producteur, il gagne plus. Et l'acheteur, il a un prix...
Raisonnable.
Il a un meilleur prix pour un produit de meilleur prix.
Donc là, moi, je m'occupe de l'atelier Jeux des logos. Donc le but, c'est de découvrir au travers des logos de structures du coin qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire. Donc moi, c'est Mélanie Gauthier. Donc je suis en service civique à l'ADES Ouest Côte d'Armor. Sur deux lieux, donc Guingamp et Lannion. Ma mission, donc, c'est tout ce qui va être jeune ambassadeur de l'ESS, donc promotion de l'ESS, mais particulièrement tout ce qui va être autour de la communication, animation dans des lycées. Et j'ai une grande partie de ma mission qui est autour de l'organisation d'un rallye ESS avec des adhérents de ma structure.
Ensuite, il y a la gouvernance démocratique. En fait, les dirigeants sont tous élus et toutes les décisions du projet sont prises collectivement et selon un principe de une personne qui participe au projet et il y a une voix.
Moi, j'avais fait ça dans un lycée sur Guingamp, l'ancien lycée où j'étais. On a été contacté par la CPE du lycée puisqu'elle avait été sensibilisée par Émilie de la CRES. Ils m'ont appelé parce qu'ils avaient envie aussi de continuer à faire connaître l'ESS aux étudiants. Au début, ils ont été un peu surpris de ce que c'était. Et en fait, en discutant avec eux, ils ont fait beaucoup de stages dans des lieux qui font partie de l'économie sociale et solidaire, ce qui a permis aussi de les sensibiliser. Et ils sont ressortis là avec beaucoup de questions qu'on avait répondues et puis des demandes de lieux de stage ou d'offres d'emploi qu'ils recherchent aussi pour la suite.
La question des bénéfices se veut responsable. Il y a des réserves obligatoires qui sont constituées. Pour la pérennité de la structure, l'appropriation individuelle des ressources est interdite et il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer.
En parlant plus local et de ce qu'ils connaissent, ça permet à ce qu'ils puissent savoir où c'est qu'ils sont aussi et puis d'avoir un peu l'image de la structure parce que forcément ils ont l'image mais ils ne savent pas si ça fait partie ou non et puis une fois qu'ils sont sensibilisés à ça, ils ressortent de là avec des informations supplémentaires.
Et du coup, toi, est-ce que tu connaissais l'ESS avant d'arriver en service civique ?
Non, je ne connaissais pas du tout. En fait, je voulais reprendre mes études pour un BTS assistante de gestion en septembre. Sauf que je n'ai pas trouvé l'entreprise à temps. Je me suis retrouvée un peu dépourvue. Donc, par la mission locale de Guingamp, une des conseillères m'a appris qu'il y avait un service civique dans l'économie sociale et solidaire. Et elle recherchait quelqu'un. Donc, j'ai candidaté et puis j'ai été prise. Je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est de la grande découverte. Et puis, je ressors de là avec beaucoup d'informations aussi. Bah là, pour moi, le but, c'est de reprendre mes études en septembre en tant que dans un BTS assistant de gestion. Et donc là, j'ai trouvé mon entreprise dans une entreprise ESS, puisqu'elle est adhérente à l'ADES Ouest Côte d'Armor.
Ce reportage a été réalisé par la Corlab. Retrouvez-le en podcast sur corlab.org.
Vous écoutez C'est vous qui le dites sur Radio U et c'est déjà presque la fin de la quotidienne. On se quitte en musique parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Vincent, notre MacGyver du câble XLR, mais c'est aussi les 50 ans de la sortie d'un monument du rock anglais, l'album Tommy de The Who. Et oui, le 23 mai 1969, leur quatrième album sort au Royaume-Uni. Il sortait 5 jours plus tôt aux États-Unis. Ce double album raconte l'histoire de Tommy Walker. Je vous propose d'écouter l'ouverture de cet opéra rock. On se retrouve demain à 18h. Bonne écoute, belle soirée sur le 101.1.
a man. I still hunger, was a beast who could kill with his hands. I still wonder how he lost his feet in a land of steel. Wonder how he lost his teeth and then talked to fear thunder.